Charles Danzig, intitulé de l'histoire de l'amour et de la haine, paru aux éditions Grasset. Merci Charles Danzig. Je rappelle que vous êtes écrivain, poète, essayiste, éditeur. Alors on va s'intéresser d'abord à la forme du roman, parce que Histoire de l'amour et de la haine se situe entre le roman et l'essai et bénéficie d'une construction bien particulière. Vous pouvez nous en parler ?
Bonsoir à tous. D'abord, je crois que c'est un pur roman. Enfin, vous dites qu'il y a entre le roman et l'essai, mais en réalité, je crois que c'est un pur roman. C'est un roman dont la structure peut avoir l'air compliquée, mais qui en réalité est très simple, qui est, j'ai voulu présenter mon roman. J'ai écrit il y a des années un livre qui s'appelait L'encyclopédie capricieuse du tout et du rien, et qui était composé de 800 pages de listes, parce que j'aime beaucoup les listes, et je me dis qu'il y a toujours des choses à faire à partir des listes. Et donc, à partir de là, je m'étais dit, et j'aime bien les formes différentes de romans, je ne suis pas toujours un grand fanatique des romans qui sont des narrations pures, qui sont François Hollande se réveilla un matin, bu un café, déjeuna avec Julie Gayet, se coucha. C'est pas tout à fait le genre de roman qui m'intéresse. Donc je me suis dit, que je voulais raconter une histoire avec une forme un peu différente, et la forme qui ferait un peu partie de l'histoire aussi. Car pour moi, un roman qui ne raconte qu'une histoire, ne raconte qu'une histoire, et en général, on raconte des histoires pour endormir les enfants. Et moi, je pense que les romans, c'est plutôt fait pour réveiller les adultes. En tout cas, j'ai essayé de trouver une forme nouvelle, et cette forme est une forme assez simple, ça se présente comme un manuel. Mon roman se présente comme un manuel, avec des chapitres sur toutes les choses de la vie qui peuvent aller de l'amour au taxi, en passant par les coiffeurs, les chaussures, enfin, toutes les choses qu'on raconte dans la vie. Et je me suis dit, comment peut-on raconter une histoire à partir de ça ? Comment est-ce qu'un manuel de vie peut devenir un roman ? Et donc chaque chapitre, et donc selon les thèmes que je vous dis, la première partie de chacun des chapitres, porte sur des personnages, les personnages qu'on suit tout au long de l'histoire, et qui sont au nombre de 7 principalement. Et ensuite, il y a un petit trait de couple, et la deuxième partie du chapitre porte sur ce que pensent les personnages, sur ce que je pense moi, sur le sujet principal, par exemple, sur les taxis, sur les coiffeurs et des choses comme ça. Et je pense que mon roman ressemble plus à la vie qu'un roman de narration classique où on nous dit « il se leva le matin, il se coucha le soir », car en réalité, la vie se passe comme ça. Je crois que la vie se passe de façon thématique. Dans mon roman, il y a un chapitre sur les coiffeurs où des personnages vont chez le coiffeur, et après il y a un chapitre où il est question de mort, et bien la vie est exactement comme ça. Le matin, on a un rendez-vous chez le coiffeur, et à midi, on apprend que sa mère est morte. Et la vie est faite comme ça, je crois. La vie est faite de... Nous avons l'impression que la vie est faite d'une continuité, car je crois que nous vivons dans une grande illusion, c'est que le temps existe. Moi, j'ai une notion un peu à moi du temps, je crois pas que le temps existe, je crois qu'il existe une chose qui s'appelle le vieillissement, ou une évolution physique des choses, mais ce qu'on appelle le temps, c'est très mystérieux. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr que la succession soit aussi manifeste que ça. On le croit aussi parce qu'on a des montres, un emploi du temps, et qu'on est salarié, et qu'on nous dit il y a juin, juillet, 8h et midi. Mais ce n'est pas pour ça que le temps est organisé de façon aussi linéaire qu'on le croit. Notre temps est fait de ruptures et de brusqueries et de chapitrage, au fond. Tout est fait comme ça, on prend un taxi et puis après on fait l'amour et puis après on mange et puis il n'y a pas de continuité naturelle des choses. Et donc voilà, je pense que j'ai voulu faire un roman comme ça qui au fond ressemble peut-être plus à la vie qu'un roman de narration classique, parce que finalement Madame Bovary c'est un chef-d'œuvre, mais personne ne vit comme Madame Bovary, enfin tant mieux, elle meurt d'ailleurs.
Alors, il y a l'incorporation de photos qui m'a fait penser à W.G. Sebald, l'écrivain allemand mort en 2011. Vous en êtes inspiré ?
Je fais ça depuis longtemps, déjà dans mon précédent roman qui s'appelait « Dans un avion pour Caracas », je faisais ça. Dans l'encyclopédie capricieuse du tout et du rien, je faisais ça aussi. Dans un autre livre qui s'appelait « Pourquoi lire », je faisais ça. Et en réalité, Sebald faisait ça effectivement de façon merveilleuse, mais un peu différente des miennes, c'est que Sebald fait des photos poétiques dans ses livres. C'est-à-dire qu'il y a une narration, puis tout d'un coup, il décrit une forêt dans la nuit et il met une photo de chouette, par exemple, qui sont des photos illustratives qui sont dans la continuité du texte. Alors que moi, quand je mets des photos dans mes livres, ce sont des photos qui sont en réalité le contraire d'image. C'est-à-dire que je crois que le travail de l'image se fait dans le texte, et si je mets une photo, c'est pour aller plus vite et pour m'éviter une description. Par exemple, s'il y a une photo de... À un moment, je fais une... il y a une liste de ce que mes personnages trouvent sexy dans la vie, et au lieu de décrire longuement, par exemple, ce que tel personnage... Un des personnages trouve le plus sexy dans la vie, l'actrice qui s'appelait Diana Rigg, qui était une des actrices de Chapeau melon et bottes de cuir, celle qui jouait Mrs. Peel, et au lieu de passer 15 lignes à décrire, voilà, c'était une actrice avec des pommettes obliques, des cheveux bruns, qui avait des yeux ronds, etc., je mets une photo de l'actrice et ça m'évite une description. C'est des images pour aller plus vite.
Comment qualifieriez-vous votre style dans ce roman ? Parce que moi, j'ai trouvé...
Génial.
Non, parce que moi, je n'ai pas arrêté de relever comme des citations, en fait. Il y a un équilibre entre la phrase et la pensée. Alors, je cite pour... « Dieu qui n'existe pas a inventé les dimanches pour mon mécontentement personnel », par exemple. Ou une autre qui pourrait être une belle citation. « L'amitié est le nom qu'on donne à une habitude de rencontre ».
À une habitude de déjeuner, même, je crois que je fais dire. En tout cas, à Paris, l'amitié est un nom qu'on donne à une habitude de déjeuner. Ça m'a toujours frappé. C'est que moi qui viens de province, j'ai toujours été frappé en arrivant à Paris, que comme toutes les gens sont amis très vite. Et quand on demande, comme pour moi, ami, c'est un truc grave et profond et qui met du temps à arriver. Et ben, très souvent à Paris, c'est on est ami avec quelqu'un quand on a déjeuné avec lui une fois. C'est un truc qui m'a toujours fasciné, ça.
Les gens sont possibles.
J'aime bien et j'ai toujours bien aimé. L'ellipse, la condensation, les aphorismes et les sentences, il m'arrive de jouer avec ça. Parfois, j'y crois et j'y crois pas aussi. Hein. Il y a là-dedans des phrases que disent certains personnages auxquels je ne crois pas, je n'y souscris pas nécessairement. Et parfois, si, par exemple, il me vient à l'esprit où je décris un dîner plutôt de mes personnages, et un de mes personnages dit « Ah, le dîner commence » et on dit des gens disent des méchancetés. Et le personnage dit « À Paris, on ne dîne pas, on déchiquette ». Et ça, je suis assez d'accord, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et parfois, je n'y crois pas. Un autre personnage dit « Paris est la ville la plus méchante du monde ». J'y crois, mais je n'y crois qu'à moitié. C'est-à-dire que je crois que Paris... Et d'ailleurs, je crois que mon histoire ne pouvait se passer qu'à Paris parce que c'est une ville méchante, mais ça ne pouvait se passer qu'à Paris aussi parce que c'est une ville spirituelle. Donc, vous savez, au fond, je crois que je suis assez enfantin. C'est que les phrases et les sentences, c'est pour moi... comme un jeu, c'est brillant, c'est gai, c'est une pensée, on y croit, on y... C'est pas une question de vérité ou de pas vérité, mais c'est une question de lancer des balles comme ça. Voilà.
Alors ce roman a pour toile de fond les manifestations contre le mariage pour tous. Pour quelle raison avoir choisi cet événement politique ?
D'abord, je crois que le meilleur cristallisateur de mémoire historique et politique dans la vie, c'est le roman. Ça n'est pas les manuels d'histoire, ça n'est pas la politique. Il y a une chose très frappante, par exemple, c'est que je crois qu'on garde mieux la mémoire des événements quand un roman les a décrites. Par exemple, nous connaissons, je parlais de Madame Bovary par hasard tout à l'heure, nous avons un souvenir très vivace en France de la Révolution de 1848, parce que Flaubert l'a décrite dans l'éducation sentimentale, qui est probablement son chef-d'œuvre. On s'en souvient parce que tout ça est cristallisé autour de personnages. En revanche, nous avons une mémoire, je pense, beaucoup plus fugace de la révolution d'avant, qui est la révolution de 1830, parce qu'il n'y a pas de roman. Et ça, c'est une chose très, très... qui m'a toujours frappé. Je pense que le roman est un cristallisateur de mémoire, parce que, tout simplement, les livres d'histoire racontent tout. Et le font sans discernement, et d'ailleurs c'est ce qu'on leur demande, on leur demande pas de discerner, on leur demande un récit de tout. Donc je me suis dit, voilà, d'abord j'ai choisi ça parce que c'est une chose qui m'avait frappé, et je me suis dit, faisant un roman pour garder la mémoire de ça, et ça m'avait frappé car j'étais comme tout le monde, et probablement beaucoup d'entre nous ce soir à Paris, à ce moment-là, et j'ai trouvé que c'est... Mon roman commence donc aux premières manifestations contre le mariage et finit aux dernières manifestations contre... J'ai trouvé que c'était un moment très très étrange de l'histoire de Paris. J'ai trouvé que tout d'un coup, et c'est peut-être pas pour rien que mon roman est divisé en 23 chapitres comme l'Iliade, c'est qu'il est entré pour moi quelque chose comme le cheval dans la ville de Troie à ce moment-là. Je trouvais très très étrange que Paris, qui passe pour une ville libérale, tolérante, qui a bien ricané des autres pays qui seraient des pays excessivement puritains. Rappelez-vous comme on s'est moqué du président Clinton quand il a eu une affaire avec une stagiaire et ça a failli renverser le président Clinton et la France entière. Et Paris entier disait « Ah là là, ces Américains, quel crétin, quel puritain !» Nous, les histoires de libertinage, on est beaucoup plus, et d'amour, on est beaucoup plus libéraux pour ça. Et puis, tout d'un coup, on a vu des manifestations comme ça pour un truc qui, au fond, n'aurait dû gêner personne, et qui, d'ailleurs, n'a gêné personne. La chose qui m'a frappé, c'est non seulement de voir Paris comme une espèce de trampoline de haine et de manif. Il y a eu jusqu'à 1 million de personnes dans la rue qui ont manifesté contre ça, ce qui était une chose très étonnante. On a dit, et je crois que c'est vrai, que c'était la première fois dans l'histoire de France qu'on manifestait contre l'attribution d'un droit à quelqu'un. C'est une chose inouïe. Et c'était d'autant plus frappant que, par exemple, en Espagne, la même loi a été prise avec une manifestation et c'était fini. Et Dieu sait que l'Espagne est un pays religieux, catholique, avec des organisations religieuses très très puissantes et plus puissantes qu'en France. En Belgique, ils ont passé cette loi il y a 10 ans, comme ça, personne n'en a parlé, ils ont eu un premier ministre gay, tout le monde s'en fiche. Et j'ai le souvenir d'un de mes amis d'Oxford, un Anglais, qui m'avait appelé au début de la discussion du projet de loi, et il m'avait dit « Oh, ben voilà, vous, les Français, vous avez ce projet de loi en discussion, vous allez voter ça en 10 minutes et demie parce que vous êtes le pays de la tolérance, des droits de l'homme, de la révolution, etc. Et nous, les Anglais, on aura l'air de crétins puritains à manifester dans la rue avec le Parti conservateur contre nous. » Et c'est le contraire qui s'est passé. Les Anglais ont voté après nous en une heure. En une heure, il n'y a pas eu de discussion, rien, personne s'est fait. Et au fond, comme ça aurait dû se faire. Et donc, voilà, moi j'ai trouvé que tout d'un coup, la ville de Paris se raconte, enfin je crois que Paris et peut-être la France se raconte une histoire sur elle-même qui est complètement schizophrénique.
Vous citez Delacroix ?
Oui, bah oui, je reproduis d'ailleurs l'image dans mon livre, c'est-à-dire que les Paris et la France se voient comme la liberté guidant le peuple. Vous savez, le tableau de Delacroix où on voit une Marianne avec un sein nu guidant le peuple, et je crois que tout au plus, les Français n'aiment pas la liberté, ils aiment les seins nus. Et encore, je n'en suis pas tout à fait sûr, parce qu'on est arrivé dans une période excessivement puritaine qui me stupéfie. Enfin, je n'aurais jamais pensé que voir ce pays dans un état de rage et de réaction au point où il en est.
Alors, est-ce que vous trouvez qu'en France, il y a une espèce d'obsession sexuelle à propos des hommes politiques en particulier, qui procède d'un esprit révolutionnaire, en sens que c'est un esprit contre-régime ? Et je pense à l'affaire des Escars, par exemple.
Ben, c'est ce que je me tue à dire depuis quelque temps, c'est que je crois qu'il y a, et cette loi sur le mariage participait de ça, c'est-à-dire qu'il y a en France, depuis quelques années, une espèce de maniaquerie sexuelle qui s'applique à la société et aux hommes politiques, qui est pour moi très dangereuse, et effectivement le signe d'un mouvement contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous prenez cette histoire de mariage pour laquelle il s'agissait après tout de permettre à deux garçons de se marier ou deux filles de se marier, qui au fond devrait être une chose absolument indifférente et qui ne devrait passionner personne, ça a bouleversé le pays. L'affaire Strauss-Kahn que vous mentionniez était ça. Enfin, tout d'un coup, la France entière s'est arrêtée pendant 6 mois de penser à autre chose que Strauss-Kahn, quoi qu'on pense de lui. Moi, je trouve que ce qu'il a fait n'est pas formidable et que l'équipe n'est pas nécessairement sympathique. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couché avec une femme de chambre dans un hôtel. Et la France a été renversée, la candidature de ce type a été interrompue. Et bien ça, pour moi... Enfin, d'ailleurs, même chose s'est produite avec Frédéric Mitterrand et son livre de mémoire il y a 2 ans, où tout d'un coup, parce qu'il racontait qu'il avait couché avec des garçons en Thaïlande, ceux qui devraient le regarder, lui, et tout d'un coup, convocation au journal télévisé, tribune, machin, il a failli sauter. Et bien ça me rappelle très exactement les pamphlets contre-révolutionnaires, contre Marie-Antoinette entre 1775 et 89, où la France était abreuvée de pamphlets de maniaquerie sexuelle qui tendaient à prouver que l'élite, ce qu'on croyait appeler l'élite française, se perdait dans le libertinage, le stupre, la luxure et, disons le mot, les partout. Et c'était dit d'ailleurs, hein, Marie-Antoinette partout, en faire des choses comme ça. Et ça participe d'un esprit révolutionnaire ou contre-révolutionnaire qui est contre le régime. Et on sait très bien qu'il y a des partis politiques en France qui dont l'objet principal est ça, et de parler de la sexualité des hommes politiques et des autres. Et ça, c'est dans une idée de persuader les gens que leurs élites sont corrompues et partouzeuses et qu'il faut donc les renverser et donner le pouvoir à d'autres. C'est une chose, je crois, très simple et très triste.
D'ailleurs, la dernière manifestation était celle de la colère, qui réunissait tous les ennemis idéologiques, demandait la démission...
Je la décris dans mon roman, la dernière manifestation, qu'elle ait d'ailleurs été autorisée, est une chose fascinante à mon avis, car elle osait s'appeler Manif de la colère, et elle réunissait, je l'ai vu, c'était à côté, c'était aux Invalides, elle réunissait les pires ennemis, et ça c'est toujours dangereux, car quand les ennemis se réunissent pour des alliances de circonstances, c'est toujours très très dangereux. Et il y avait dans cette manifestation des crânes rasés avec Barbour et Doc Martin, sans savoir ce que ça veut dire, des intégristes musulmans, des catholiques intégristes avec des poussettes et des pauvres enfants barbouillés de bleu, blanc, rouge qui n'en demandaient pas autant. Je me demande si les parents mettent du lait bleu, blanc, rouge aussi. Et tous ces gens-là hurlaient des slogans non seulement à la démission, demandant la démission de Hollande, mais enfin tenaient un panneau que mes personnages décrit dans le roman, qui était tellement stupide, qui était non à l'Europe, pédo, criminel, sioniste, sataniste. Enfin, pourquoi pas les spaghettis bolognaises, c'était grotesque. Mais ça montre l'état de haine où est arrivé le pays. Enfin, à part ça, mon livre est un roman, là, on a l'air d'écrire un...
Non, mais justement, alors, je vais vous citer Démosthène dans votre livre, page 383. Vous dites « Définition des minoritaires coupables du XXIe siècle en 344 avant notre ère ». Et il dit « Car je vois trop que d'ordinaire, certains hommes passent leur colère non sur les coupables, mais sur ce qu'ils ont sous la main ». C'est vous qui citez ça ?
Ben oui, Démosthène avait... Démosthène avait raison, c'est un bon titre, Démosthène avait raison. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, tout ça se passe, la chose dramatique, que c'est, toutes ces choses se passent dans un moment de crise économique. Et la conjonction d'une crise économique violente qui ne passe pas et de manipulation politique, ça fait qu'on s'attaque à des minorités. Et là, on cherche des boucs émissaires, c'est une chose excessivement simple. Dans les années 30, on cherchait certains boucs émissaires. Si ça continue, moi je suis assez pessimiste sur l'état du pays. Enfin, d'abord, on a vu, quand on nous dit, moi j'ai eu un débat la semaine dernière à la télévision avec la femme raffinée, intelligente et tolérante qui s'appelle Frigide Barjot. Elle osait me dire que vous comprenez, il n'y a pas eu de violence car il n'y a pas eu de mort ni de blessés. D'une part, c'est faux, car des blessés, il y en a eu. Il y a des gens qui se sont fait casser la gueule dans Paris. Et il y a eu des vitrines cassées, enfin il y a eu des gens qui ont été physiquement attaqués, et quand bien même n'aurait-il pas eu, ça n'est pas un argument, car on sait très bien que la violence verbale peut être beaucoup plus insinuante et cruelle que la violence physique, et par-dessus le marché, les paroles arment les bras, enfin c'est pas très mystérieux ce que je dis, l'assassin de Jean Jaurès en juillet 1914, a assassiné Jean Jaurès parce qu'il avait entendu Jean Jaurès traité de traître à la patrie pendant des mois par l'extrême droite, et donc cet illuminé est allé le tuer. Le crétin qui a tué Menahem Begin il y a 10 ans en Israël entendait des rabbins fanatiques dire qu'il était un ennemi d'Israël et qu'il était un mauvais juif, ils l'ont tué. Il y a un mois, en Inde, un des plus grands professeurs d'université indien, écrivain et très bon écrivain, a osé écrire un livre où il se moquait de l'idolâtrie de la religion hindouiste. Il a qu'il ait raison ou tort, ça n'est pas la question, il a le droit de le dire. Eh bien, il s'est fait pendant des mois injurier par les fanatiques hindouistes qui le traitaient de mauvais indien, etc., etc. Il a été buté il y a un mois par un type qui croyait ça, et un jour ça arrivera. C'est-à-dire, il faut se rappeler que ça arrivera avec les gays. Il faut se rappeler que quand même, c'est la première fois dans l'histoire du pays que la parole est autant libérée sur ce sujet-là depuis 4 ou 5 ans, où c'est allé jusqu'à Sarkozy au discours de Marseille. Il a fait un discours à Marseille entre les deux tours avant d'être battu, et où il disait que les gays étaient des mauvais Français. C'est une stupidité, personne ne peut le croire. Parce que je pourrais faire, comme un de mes personnages, la liste des gays qui ont été résistants et héroïques et qui se sont battus contre les Allemands. Enfin, tout ça, il n'y a même pas de preuve à donner. Mais dire que c'est des mauvais Français, c'est une connerie, mais c'est une connerie qui peut armer un crétin. Et donc, tout ça. Et c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on entend ça. C'est, je veux dire, avant, les députés se tenaient. Personne n'avait entendu, en pleine commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'endroit où se décident les lois qui nous gouvernent, un député dire « pourquoi pas les animaux ?» C'est quand même un truc insensé, c'est une stupidité sans nombre. Enfin, personne n'avait entendu le député Pierre Lellouche auparavant dire « il faut les stériliser ». Les, parce qu'en plus, il ne faut pas dire le nom, car le nom est infâme. Il faut les stériliser. En fait, tout ça était insensé. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je suis assez pour l'outing des salauds. Quand il y a deux ou trois mois, on a vu le Front National soudain devenu vertueux parce que Philippot avait été outé par Voici. Je suis tout à fait pour les gens qui veulent vivre tranquillement leur vie, qui ne veulent pas dire « ils n'ont rien à dire, ils ont bien raison ». Mais à partir du moment où un type est un salaud, dit « je suis contre le mariage, je suis contre l'attribution d'un droit à ce que je suis et que je cache », il faut lui dire « mon coco, tu es ce que tu es et tu l'assumes ».
Alors revenons aux personnages. Il y a 7 personnages principaux qui se croisent dans votre roman. Un couple gay, Aaron et Armand. Anne, une jeune femme qui vit en colocation avec eux. Pierre S., un écrivain qui n'écrit plus. Ferdinand, un jeune homme qui découvre son homosexualité. Et son père, le député Furnes, qui est un personnage homophobe, opportuniste, hypocrite et odieux. Comment avez-vous fait pour construire ce personnage homophobe ?
Eh bien, vous savez, je n'ai eu hélas que je n'ai eu hélas qu'à ouvrir les yeux. Balzac disait que pour créer des personnages, il faut... Un personnage, ce n'est pas une personne de la vie, c'est une chose différente. Un personnage est différent d'une personne dans la mesure où c'est une symbolisation. Et si on mettait un personnage dans la vie, il disparaîtrait immédiatement, de même que si on mettrait une personne dans un roman, il disparaîtrait aussi, parce que ce n'est pas la même chose. Balzac disait, pour créer un personnage, il faut ajouter des choses. C'est-à-dire, dans la vie, on a des personnes très incomplètes. Il faut en général... Si on étudie réellement ce que c'est un personnage de roman, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus complets que nous parce qu'ils ont des passions plus fortes, ils ont des manies plus fortes, etc. Mais dans le cas de mon député, j'ai dû enlever parce que voilà, il suffisait que je prenne, et je ne vais pas dire les noms, les déclarations de ces aimables députés qui ont parlé sans discontinuer pendant 13 mois, il fallait plutôt que j'en enlève. Et ce que j'ai voulu faire avec ce personnage, c'est ce que j'aime bien dans les romans, c'est les romans qui sont impérialiste. Moi, je suis très pour l'impérialisme. Je suis très pour le colonialisme littéraire. C'est ça, je veux dire par là que quand la littérature et quand la fiction est bonne, c'est quand elle annexe à elle-même des choses que la vie se cache. Et par exemple, ça ne peut se faire que par des personnages. Par exemple, Ivan Turgenev, le grand écrivain russe, est le premier qui a décrit dans un roman un personnage de serbe. Jamais personne n'avait décrit un esclave russe. Et tout d'un coup, il a fait ça dans un roman, et les Russes se sont mis à dire « Tiens, c'est ça, on traite les gens comme ça, le servage, c'est ça. » Quand Émile Zola a décrit pour la première fois un mineur de fond dans Germinal, personne ne l'avait fait. Il y avait des paysans sans discontinuer dans la littérature française, dans la fiction française, mais pas de mineur. Et tout d'un coup, il a montré la vie ce que c'était, et la vie a été obligée de regarder ce que c'était. Donc, pourquoi Jean Genet, quand Jean Genet a décrit pour la première fois des travestis, pour la première fois dans Miracle de la Rose, il y avait un travesti, la société est obligée de regarder ça. Eh bien, croyez-le ou non, je peux me tromper, mais enfin, je le dis et l'écris depuis deux mois que mon livre est sorti, et pour l'instant, je n'ai pas été contredit. Il n'existait pas de personnage homophobe dans la fiction. Peut-être que dans les coins comme ça, un personnage de troisième plan faisait une remarque homophobe, mais en tout cas, de personnage de premier plan. Dans la littérature que je connais, j'en connais un peu, ça n'existait pas. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Eh bien, faisons que la société regarde ça, ce que c'est. Sans psychologie, d'ailleurs. Au fond, il m'est égal de savoir pourquoi les gens agissent. Le roman, c'est jamais une affaire de pourquoi, c'est une affaire de comment. Donc, on montre comment les gens agissent et expliquer pourquoi, au fond, c'est pas si intéressant parce que c'est de la psychologie et ça finit toujours par des excuses. Moi, à la fin, qu'un salaud soit un salaud parce que sa maman picolait quand il était petit, ça l'excuse pas. De la même manière, qu'on n'est pas non plus quelqu'un de bien parce qu'on a suivi un exemple. Ce qui est intéressant, c'est de montrer comment ça marche. Je me suis dit, tiens, montrons un député homophobe. Et j'ai fait... j'ai créé ce député homophobe en lui prêtant des paroles qui sont les paroles politiques qu'il emploie dans mon roman sont des paroles absolument exactes qui ont été dites soit par Vanès, soit par Wauquiez, soit par Christine Boutin. J'ai répondu à une interview il n'y a pas très longtemps. Christine Boutin a dit, parce qu'elle est elle est merveilleuse quand même. Il faudrait, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Elle a dit l'homosexualité est une abomination, et on m'a demandé mon avis et j'ai répondu sa coiffure est une abomination. Parce qu'il faut par moment on peut se montrer de ce genre aussi.
Et donc j'ai fait à ce député homophobe, je lui ai donné un enfant qui s'appelle Ferdinand. Et une des choses qui me fait le plus plaisir dans l'accueil, je dois dire, qui est très, très, très agréable, qui fait à mon roman, c'est que je suis assez vaniteux car il s'est créé sur Twitter un hashtag Ferdinand, ce qui veut dire que le personnage plaît, et ça me plaît beaucoup. Et c'est un gamin de 18 ou 19 ans qui découvre qu'il est gay avec un père homophobe. Et la première émission de radio que j'ai faite, c'était avec Tadei sur Europe 1. Il m'a dit, parce que vous ne croyez pas que vous exagérez. Je lui ai dit, je ne crois pas. Et j'ai appris depuis, figurez-vous, et je n'en savais rien, que c'est un député qui me l'a dit, je ne sais pas qui c'est, mais il m'a dit qu'un des plus célèbres députés homophobes de l'Assemblée avait un fils gay. Et je vous assure que j'en en savais rien. Mais ça tend à démontrer une chose, c'est que je crois que l'imagination n'est pas une fantasmagorie. L'imagination est une chose de logique. Les gens croient souvent que l'imagination, c'est comme la science-fiction, c'est imaginer un type avec une trompe ici, trois oreilles là, qui prend une soucoupe volante et qui va assassiner la tribu des Orglups parce qu'ils veulent envahir la planète Schmurf. Je crois pas que c'est ça. L'imagination, c'est vraiment une question de logique. Et il me paraissait logique et plausible qu'un affreux homophobe puisse avoir pour fils un enfant gay. D'ailleurs, j'ai pensé... indirectement, parce qu'on m'avait raconté l'histoire dans une des manifestations anti-mariage qui a eu lieu dans Paris. On m'avait rapporté l'histoire de parents arrivés de Versailles. C'était beaucoup Versailles quand même, c'était le côté contre-révolutionnaire de l'affaire qui était frappant. Versailles qui débarquait, une famille avec des braves parents sur trois enfants, ils en avaient deux dans la manifestation, deux enfants en bas âge, naturellement barbouillés de bleu, blanc, rouge, et non au mariage, la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels, enfin des choses comme ça, intelligentes. Et il se trouvait que ces gens, m'avait-on dit, avaient un troisième enfant qui était adolescent, 16 ans, et qui est resté à Versailles et qui était mortifié car il savait qu'il était gay, il n'osait pas le dire à ses parents. Il a vu ses parents manifester avec son petit frère et sa petite sœur, éperdu parce qu'il ne pouvait pas le dire, il s'est précipité, ce qui arrive parfois. C'est une forme de la sexualité peut être une forme de vengeance. Il s'est précipité dans la sexualité la plus débridée. Il est allé coucher partout. En réalité, trois mois après, il avait le sida car on l'attrape encore. Donc, c'est des choses qui existent. Je veux dire, ces gens ne s'imaginent pas que la vulgarité et la violence de la réaction, l'inhumanité très simple de la réaction, crée des réactions très bien normales de désespoir.
Alors, ce personnage, Ferdinand...
Enfin, je voudrais dire aussi que dans mon livre n'est pas un livre sinistre de démonstration où je parle... Enfin, j'espère, en tout cas, il y a aussi des passages que
il y a beaucoup d'humour, hein, de toute façon, qui traverse le livre. Mais la toile de fond, c'est quand même quelque chose de lourd, de sérieux et de grave. Donc, forcément, ça donne...
C'est sérieux. J'ai lancé une collection, une revue l'an dernier qui s'appelle Le Courage, et dans ma revue, j'ai écrit un texte où j'ai dit le problème, c'est qu'on croit que le mal est désigné par un panneau. On a tendance, à cause de l'interprétation historique postérieure des choses, que dans la vie, il y a tout d'un coup un panneau avec mal, comme il y a écrit Garth Legonnet. Mais ça, c'est une interprétation rétrospective à cause des propres histoires qui nous disent 30 janvier 33, Hitler devient chancelier d'Allemagne, donc c'est le mal. C'est pas vrai. Le mal n'est jamais désigné à un moment précis. Le mal est déjà là quand le panneau arrive. Et les romans servent à montrer ça. Et j'espère que mon roman sert à montrer ça. Il n'y a pas de moment déterminé du mal. On passe notre temps à dire attention, ça va arriver, ça va mal se passer, etc. Je crois que ça se passe mal.
Justement, vous rapprochez la haine, parce qu'en fait, il y a une recherche de d'où vient cette haine. Et vous rapprochez la haine à l'hypocrisie, au mensonge, et j'ai trouvé notamment un mensonge qui est inhérent à la condition humaine, puisqu'il s'agit de l'âge adulte. Pierre S. dit, voit le monde comme un mensonge raconté, admis et entretenu par tous.
Oui, je crois que mon livre est aussi ça, c'est un livre sur... Alors, un écrivain m'a dit il n'y a pas très longtemps, au fond, votre livre est un traité de la délicatesse. Je lui laisse le jugement, mais enfin, ça m'a intéressé qu'il me dise ça, parce qu'au fond, c'est aussi un livre sur les façons d'aimer dans des temps de crise et la façon dont on peut être indélicat, sans délicatesse envers l'amour. Et une de ces manifestations est dans la façon dont les adultes traitent les enfants. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon personnage de Ferdinand, qui a 18 ans, qui sort de l'adolescence. dans mon roman, c'est que, et ça m'a toujours frappé pour moi-même, c'est que je trouve que les adultes, une des plus grandes causes de la violence et de la brutalité dans le monde, est que les adultes oublient qu'ils ont été enfants. Ils n'ont plus, un adulte brutal, un adulte violent est quelqu'un, à mon avis, qui a perdu l'imagination de ce qu'a été son enfance. Car je crois que tout enfant, c'est douloureux. Il est très très rare que les gens se disent « on a eu des enfances heureuses parce que Tata Germaine me donnait des fraises au sucre ». L'enfant, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que les enfants sont toujours seuls, c'est qu'à un moment, l'enfance est une chose, est un monde pour moi qui est... L'enfance est un peuple. D'ailleurs, je le fais dire à un de mes personnages, l'enfance est un peuple qui est exploité par un autre peuple qui est les adultes. Parfois, c'est pour son bien, parce qu'il faut aussi éduquer les enfants. Mais je crois que le reniement de l'esprit d'enfance est ce qui crée la violence. Et les gens, si on réfléchit deux minutes, je crois que les gens les plus violents et les plus brutaux, les réactions violentes et brutales sont justement les moments où on oublie ça, on oublie qu'on est faible. On est faible, car l'enfance est un état de faiblesse. Et les adultes croient qu'ils sont forts. En réalité, ils ont peur de leur faiblesse. Et un des problèmes qu'on vit en ce moment, dans cette période de crise ou avec ces manifestations, c'est un problème qu'on a avec la faiblesse. Moi, je suis très pour la faiblesse. La faiblesse, c'est une chose très très bien. Il y a trop de force dans le monde. Et il faut simplement savoir que la faiblesse n'est pas une chose mal. Il y a trop de gens forts, il y a trop de muscles, il y a trop de force. La faiblesse, c'est une chose très très bien, très très bien. Les enfants sont faibles et c'est merveilleux. Les minorités sont faibles et c'est très bien. Et voilà. Vive la faiblesse. La faiblesse qui sait se défendre.
Vous évoquez aussi, on reste dans justement ces recherches de haine, vous évoquez par l'intermédiaire de Pierres, pourtant tolérant, l'insinuation de la pensée unique malgré soi. Alors je vous cite, page 140, donc Pierres qui dit, eh bien en regardant...
Pierres, c'est l'écrivain qui n'écrit plus, c'est ce que j'espère ne pas être.
Eh bien en regardant les manifestants pour le mariage, je me suis fait des réflexions du genre, ils ont l'air comme les autres, et je repensais à ça et j'ai eu honte de ce que la haine soudain exprimée envers eux les oblige à se défendre et de mes réflexions.
Ben oui, ça m'a semblé la réflexion logique et raisonnable de tout homme qui devrait regarder ça, c'est-à-dire que toute oppression d'une minorité, même si on n'en fait pas partie, et surtout si on n'en fait pas partie, devrait nous faire honte. Moi, il y a une phrase très belle qui me revient de Walt Whitman, le grand poète américain, qui a écrit... un volume qui s'appelle « Feuilles d'herbe »,« Leaves of Grass ». Et il y a un vers de ce... Je parle plus lentement parce que je voudrais vous le citer exactement et je le cherche dans ma mémoire, mais je crois que je l'ai. Ce vers de Whitman est « Qui dégrade, me dégrade ». Qui est une phrase sublime. « Qui dégrade, me dégrade ». Moi, on dit à quelqu'un « sale arabe », ça me touche moins. On dit à quelqu'un « sale juif », ça me touche moins. Je suis ni arabe, ni juif. Et pourtant, et tout le monde devrait être comme ça. Je ne trouve pas exceptionnel de... toute personne qui est dans une situation majoritaire et à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation majoritaire à un moment ou l'autre. On croit parfois aussi qu'on est dans une minorité, mais on n'est jamais complètement dans une minorité.
Mais il ne peut pas s'empêcher de penser ça et d'avoir cette réflexion qui vient à lui. Alors c'est un personnage tolérant et qu'il a...
Ben voilà, mais au moins, il a la sagesse ou l'humanité de dépasser ça.
Et est-ce que c'était c'est une façon aussi de dénoncer tous ces experts qui ont monopolisé l'espace médiatique
Oui, ça c'était une chose. C'est-à-dire qu'au fond, la chose qui était la plus comiquement blessante dans cette affaire, c'était pas tellement les injures et les stupidités de ces députés qui disaient voilà pourquoi pas les animaux, il faut les stériliser, la nation française va s'éteindre et des choses comme ça. C'était pas des stupidités pareilles parce que précisément elles étaient des stupidités au fond. À part les crétins, tout le monde pouvait les voir. Le plus offensant, c'était les experts qui venaient raisonnablement parler, et là aussi, avec une espèce d'obsession sexuelle, parce qu'au fond, tout ce qui intéresse les gens, c'est d'essayer d'imaginer ce qui se passe dans un lit. C'est qui fait l'homme, qui fait la femme, que font les femmes, enfin des trucs un peu comme ça, quoi. Et les experts venant parler à la télévision et venant faire de la psychologie, en permanence, ces experts pouvant être des prêtres, des sociologues, des psychanalystes, il y a eu un grand retour de réaction psychanalytique à ce moment-là qui a été assez,
assez fort. Et ces gens-là venaient parler à la télévision, mais en permanence, disant « Les homosexuels sont comme ci, les homosexuels sont comme ça, les lesbiennes se comportent de telle façon, etc. » Et tout d'un coup, moi j'avais le sentiment d'être une espèce de singe du zoo de Vincennes dont on parlait comme si je ne faisais pas partie de la communauté nationale. Tout d'un coup, c'était un truc d'exclusion par la parole qui était inouï. « Ils sont comme ça. » C'était au fond la chose la plus décente, parce que c'était un truc d'exclusion tellement inconsciente que c'était, ça allait de soi. Quoi. Ils sont comme ça.
Alors d'ailleurs, dans votre roman, c'est Armand qui dit c'est l'homophobe qui fait le gay, ce qui reprend Sartre qui disait c'est l'antisémite qui fait le gay.
Oui, je crois, on m'a un peu reproché ça, mais je crois néanmoins que c'est vrai, parce que ça veut dire que dans un état humain normal, ces choses-là ne doivent pas même pas être discuté, ni pensé, ni justifié. C'est un état. Ça n'est pas un choix, c'est un état comme d'avoir les cheveux roux. Donc est-ce que les roux discutent de la roussitude? Non. Et c'est précisément la haine contre ça qui fait que par moment, on est obligé de se constituer un opposant à ça. C'est vraiment l'homophobe qui fait le gay. Moi, je me suis dit que je devais écrire j'avais déjà publié dans Le Monde une tribune au moment des manifestations parce que le niveau d'indécence me paraissait dépassé. Et je me suis dit, même si mon roman est de la littérature et n'est pas que sur ça, parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, il y a aussi des couples hétérosexuels et leurs soucis, il y a aussi une réflexion sur la beauté du personnage d'Anne. Enfin, mais je me suis dit qu'il fallait écrire ça pour dire arrêtez. Il suffit parfois de dire « on vous a vu, vous savez, on vous a vu ». Et d'ailleurs, ils ont très bien compris qu'on les avait vus, parce que moi, sur les réseaux sociaux, je suis, il y a beaucoup de choses très sympathiques, mais je suis aussi harcelé par ces gens-là qui ont très bien compris que c'était dangereux qu'on les désigne. Parce qu'au fond, ils faisaient beaucoup de tapage dans la rue, etc. Mais voilà, tout d'un coup, en roman, on leur dit « ils sont comme ça, ils sont là ». Et j'ai quand même eu 2 menaces de mort sur Twitter, ça ne m'affole pas outre mesure, mais enfin, ça veut dire que quand même, il y a des gens assez passionnés pour au moins occuper 15 secondes de leur vie à écrire en 146, en 28 butées.
Alors, il y a une phrase que j'aimerais savoir. D'abord, il y a une réflexion sur l'art, sur la place du roman, du romancier. Pourquoi, d'ailleurs, avoir choisi un écrivain qui n'écrit plus?
Eh bien... Parce que mon livre est aussi sur le courage, c'est-à-dire sur le courage d'un gamin gay qui ne sait pas comment faire pour dire à son père qui est un homophobe qu'il l'est, le courage d'autres qui vont tout d'un coup devenir militants parce qu'ils trouvent que le niveau d'indécence est dépassé, j'ai oublié votre question.
Je ne sais plus.
Parce que écrire est une chose très compliquée et il arrive parfois que pour écrire il faut du talent de préférence, enfin je pourrais si y a certains écrivains qui écrivent dans ça, mais de préférence il faut du talent, et une fois qu'on a le talent ne suffit pas, il faut du courage, car écrire est une chose très très compliquée, très pénible. Moi j'ai écrit ce roman pendant plusieurs années, ça veut dire qu'il ne faut pas sortir le soir, il ne faut pas voir des gens, et je l'ai réécrit 24 fois, il faut, voilà, c'est des choses pour une récompense aléatoire. Là ça marche, mais parfois ça ne marche pas, et donc on a quand même sacrifié 3 ans de sa vie à une chose un peu... où il faut du courage, enfin pas moi seulement, hein. tout écrivain a besoin de courage. Et j'ai voulu décrire ça, car il arrive parfois que, voilà, j'avais pensé à un écrivain qui a existé, qui est mort il n'y a pas si longtemps, et que j'aimais beaucoup, qui était Bernard Franck, qui était le chroniqueur du Nouvel Observateur, et qui a écrit des romans aussi, et Bernard Franck avait écrit à l'âge de 20 ans un livre qui était un chef-d'œuvre qui s'appelait « Géographie universelle », eh bien, à partir de ce moment-là, il n'a plus été capable d'arriver au niveau de ce livre, parce que c'est très compliqué d'écrire un chef-d'œuvre, voilà, on n'y arrive pas à chaque fois, même si on le veut. Et puis, il est devenu un peu alcoolique à cause de ça, et puis il a écrit dans les journaux à cause de ça, c'était toujours des choses supplétives, et à la fin, il n'écrivait plus. Et ça n'est ni bien ni mal, mais c'était très déchirant, car en fait... Vous voyez bien que, et mon personnage de Pierret, c'est comme ça, c'est un homme qui a eu la force, le courage et l'abnégation d'écrire 3 ou 4 grands livres selon ce que je dis. Et puis au bout d'un moment, il n'en peut plus. il n'en peut plus, et ça devient... Et après tout, au moins, il a fait ça, mais mon personnage, ce Pierre-S, là, devient... On le voit, je le montre comme ça dans un grand fauteuil, dans un appartement, square Trousseau, dans le 12e, comme ça, car mon livre est aussi un roman très parisien. On le voit tendre la main, de temps en temps, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Par moments, il gratte la tête de son secrétaire, et la plupart du temps, c'est pour prendre un verre de champagne, car il ne fait plus que boire du champagne. Mais voilà, donc c'est une chose à propos du courage.
Il y a une phrase qui m'a marquée de Pierre-S qui dit « La beauté a peut-être tué la France si en 1940, au lieu de déclarer Paris ville ouverte, on l'avait laissé bombarder. Qui sait si ça ne nous aurait pas galvanisé au lieu de nous laisser parmi nos bibelots ?»
Ben, je ne sais pas s'il a raison, c'est une question que je lui ai prêtée et je me demande si, en tout cas, elle mérite, je crois, d'être posée. Je pense que les Anglais se sont battus avec d'autant plus de détermination que pendant les premiers mois de la guerre, la Blitzkrieg a bombardé Londres et a détruit la Chambre des communes, a détruit des beautés de Londres. Et je sais que, encore une fois, c'est une simple question que je pose, mais il est possible que. Et c'est un écho au personnage d'Anne, dont on pourra peut-être dire un mot après, mais la beauté peut être une fatalité. Et il est très possible que, historiquement, la beauté de Paris soit une fatalité. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les Français sont casaniers la plupart du temps, ne partent pas, parce que, en général, la France est un beau pays. Je pense qu'on a tous voyagé, et je crois qu'on peut dire que vraiment... J'aime pas beaucoup les superlatifs, mais je crois qu'on peut dire que Paris est la plus belle ville du monde, même si Rome a infiniment de qualité, même si tout ce qu'on sort Francisco, tout ce qu'on veut, mais enfin... Et je pense que le fait de déclarer Paris ville ouverte, de laisser Paris intact, a fait que, d'abord, les Parisiens ont vécu dans cette beauté préservée comme si c'était une espèce de féerie et que la vie était intacte. Et s'il y avait eu tout d'un coup la blessure de voir le Louvre crever par des bombes allemandes, eh bien, peut-être que ça se serait passé autrement. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Si on avait détruit Versailles, peut-être qu'il y aurait eu une indignation, et là, on disait « Ah, ils sont corrects, ils ont laissé les Tuileries comme il faut. » Mais...
Ça rend les Français conservateurs, ce rayonnement culturel. Parce que Versailles, vous parlez de Versailles, juste une aparté, ça m'a fait penser, ça rejoint votre roman, à l'œuvre d'Anish Kapoor, qui a été récemment... vandalisé à Versailles, et justement...
Mais ça fait partie du fantasme sexuel de ce pays, instrumentalisé par la politique. C'est-à-dire qu'Anish Kapoor, moi, il se trouve que j'étais à un déjeuner où Anish Kapoor a présenté son œuvre. On nous a dit, cette œuvre, c'est le vagin de la reine, y compris Le Monde, d'ailleurs, le journaliste du Monde, le chroniqueur des Beaux-Arts du Monde, qui n'est pas toujours le comte de l'honnêteté, a commencé son article en disant le vagin de la reine. Jamais Anish Kapoor n'a dit que c'était ça. Moi, j'étais là, j'étais au déjeuner où, à l'ambassade du Royaume-Uni, où il présentait son truc. C'est un type charmant, il racontait au contraire que son œuvre, et qu'on l'aime ou pas, mais était un effet de contraste entre le gigantesque et Versailles, qui était... D'ailleurs, il me revient... une phrase, mais je crois qu'elle est j'allais dire qu'elle est de Valérie Larbaud, mais je crois qu'elle est de moi. Je crois qu'une des singularités de Versailles et de la France, c'est que la France a inventé la beauté horizontale. Versailles est un palais horizontal qui est très peu élevé. Paris est une ville horizontale, et c'est peut-être une des singularités qu'on a, car les autres ont une imagination plus phallique. Et si on prend San Gimignano, qui est cette ville de Toscane, la première ville avec des gratte-ciels en quelque sorte, où ils ont fait des gratte-ciels de pierre sublimes, et New York, que j'aime beaucoup, sont des villes de beauté verticale. Et la France crée des villes de beauté horizontale. Il y a très peu, je crois pas qu'il y ait de ville en France avec l'idée de l'élévation et de la hauteur. Bref, Anish Kapoor racontait que son truc, c'était une opposition entre le gigantesque et le minuscule, etc. Mais ce sont les fanatiques qui ont dit c'est le vagin de la reine. Mais vous savez, la saloperie est souvent dans l'imagination du salaud. C'est un truc très simple. C'est lui, il fait une œuvre d'art et tout d'un coup, des salauds maniaques, obsédés sexuels, le vagin de la reine, etc. Et par-dessus le marché, le type est à moitié juif, donc on va taguer des trucs antisémites. Ensuite, on va casser. Enfin, et j'ai été assez surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'indignation que ça. C'est quand même quoi qu'on en pense. Moi, je ne trouvais d'ailleurs pas ça si formidable, hein, l'installation de Kapoor à Versailles. Enfin, il a bien le droit de le faire. C'est une commande publique, il l'installe, c'est temporaire. Si on se met à détruire tout ce qu'on n'aime pas dans les musées, ça va être assez catastrophique. Moi, par exemple, j'ai une chose qui m'est un peu singulière. J'ai horreur des impressionnistes, mais enfin, je ne vais pas prendre des pots de yaourt pour aller barbouiller les tableaux que je trouve affreux de Renoir ou de confiture. Il y a déjà assez de confiture dans ces tableaux pour pouvoir en rajouter. Mais si tout le monde se met à aller saccager ce qu'il n'aime pas, ça va être un peu... Et ça, c'est l'espèce de maniaquerie sexuelle qui s'est emparée de ce pays et de certains activistes qui désignent tout comme sexuel pour hystériser ce que Brecht appelait l'esprit petit bourgeois, de ressentiment, de haine, de voilà, on leur dit « Ah, regardez tous ces châteaux, ces directeurs, ces artistes, des gens foutres qui ne foutent rien, ces écrivains, allez casser, c'est des salauds, ils baisent. » C'est tout.
Donc il y a une réflexion sur l'art, sur la beauté. Alors parlons d'Anne, qui est victime de sa beauté.
Ah oui, ça c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'avais déjà dans un de mes romans qui s'appelle « Je m'appelle François », j'avais créé un personnage qui était beau et qui était tracassé par sa beauté. C'est une chose qui m'a toujours frappé à partir du jazzman Chet Baker. Je ne sais pas si vous vous rappelez Chet Baker, quand il était jeune, était très très beau, vraiment très beau. Et 30 ans après, on regarde les photos de Chet Baker, on a l'impression qu'un train lui est passé dessus, il est abîmé, il est détruit, etc. Et là, j'ai créé ce personnage d'Anne avec cette même idée. C'est une femme très très belle et qui est paralysée par sa beauté, car je pense que la beauté est une malédiction. Je pense que la beauté physique est une malédiction. Cette fille est tellement belle qu'au fond, elle, mais c'est une chose aussi qui me paraît très simple. Moi-même, quand j'ai affaire à de la beauté, je suis sidéré. Je suis stupéfait. Je vois qu'un être beau, homme ou femme, je suis comme ça. Je me rappelle enfant, j'avais 11 ou 12 ans, d'être trouvé dans un avion à côté de Sophia Loren. C'était il y a 30 ou 35 ans. Elle était sublime et j'en suis encore sidéré. Ça provoque des réactions de sidération. On est comme ça. On est comme ça. Et on est sidéré. Parfois, notre sidération se transforme par hypocrisie en désir sexuel, parce que parfois, on appelle beau ce qui nous excite sexuellement. Donc, ça crée des rapports assez anormaux avec ces gens-là. On n'est jamais normaux avec les gens beaux. Et ces gens le sentent. Ces gens sont intelligents. D'ailleurs, une des preuves que la beauté est une malédiction, c'est qu'en général, la beauté est calomniée. Il dit très, très, très connu qu'une fille belle doit être très très conne. Et ça, c'est une vengeance inconsciente de nous tous, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sépare tellement la beauté que pour s'en revancher, on dit « Oh non, elle doit être très conne », parce qu'il est impossible que dans l'esprit moyen des gens envieux, la beauté puisse aller avec l'intelligence. Et que ce soit homme ou femme d'ailleurs, c'est-à-dire les femmes sont très très connes et la beauté des hommes est peut-être encore plus difficile à porter car ça passe pour souvent une effémination. Et d'ailleurs, il est assez frappant, je le fais dire à un des personnages dans mon livre, qu'on ait inventé le mot efféminé comme injure. Il est quand même fascinant que l'adjectif associé au mot féminin soit devenu une injure. La langue française n'a pas inventé la même chose avec le mot masculin ou viril. Il n'y a pas viriliné ou masculinisé ne veut pas dire quelque chose de mal. Efféminé, ça veut dire quelque chose de mal. Ça veut dire qu'on méprise profondément les femmes. Et on méprise encore plus les hommes qui sont beaux en disant qu'ils sont efféminés parce que c'est un truc qui va... C'est le problème probablement perpétuel de la virilité, c'est qu'on a peur que l'homme très beau, tout d'un coup, ne soit pas assez viril. Mais tout ça, c'est des idées très confuses et c'est les résidus de l'esprit cro-magnon chez nous, chez l'homme du XXIe siècle. Il y a, hélas, dans l'esprit et le cerveau, si on peut appeler ça comme ça, de bien des gens, une forte part de cro-magnonisme qui fait qu'il résonne comme ça. Et bref, la beauté, c'est pareil. Mon personnage d'Anne est une fille très belle. Et j'ai essayé de déduire ses gestes. D'ailleurs, c'est un personnage que je décris beaucoup par ses gestes. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une femme très belle? Donc d'abord, elle est très belle, elle n'arrive pas à trouver de petite amie, et elle vend en général le fiancé catastrophique, enfin, en fiancé catastrophique, parce qu'elle est tellement gênée par sa beauté qu'elle se précipite dans les bras de type qui la bouscule, la traite mal, et elle s'en veut de sa beauté, elle se punit comme ça. Et donc j'ai essayé de lui créer des gestes et une façon d'être qui vont souvent avec
les gens beaux, il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé tout à fait par hasard Catherine Deneuve, peut-être plus aussi belle qu'elle ne l'a été, mais enfin j'aimerais bien, si je puis dire, aussi belle qu'elle à son âge. Et j'étais très frappé de la timidité de Catherine Deneuve, comme je lui parlais. Et cette femme qui est habituée pourtant à l'admiration de sa beauté depuis 40 ans ou 50 ans, était infiniment gênée que je lui parle. Ce que je comprends d'ailleurs, car moi-même, de façon tout à fait différente, quand on me fait des compliments sur mes livres, je suis atrocement gêné, je ne sais pas comment réagir, c'est très compliqué. Bref, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cette femme si belle, si empêtrée dans la vie par sa beauté? J'ai essayé de la décrire, elle a des gestes, elle s'est laissée pousser les cheveux, elle fait ce que font souvent les femmes belles, d'ailleurs les femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique, Jani est comme ça, elle se laisse pencher les cheveux et dès qu'elle dit quelque chose, elle se cache derrière un rideau de cheveux, elle bégaye en parlant, car je me suis dit qu'une femme très très belle, ou tout être très très beau, était en quelque sorte presque obligé de se faire excuser par des bafouillements. Si en plus quelqu'un de très beau était éloquent comme Oscar Wilde, il serait au peloton d'exécution dans la seconde. Et donc peut-être que la ruse des actrices très belles est de passer pour des connes qu'elles ne sont pas.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors je vais finir, je vais juste lire pour terminer, et puis ensuite on passera à la dédicace. Alors un passage. L'humanité est composée d'aquariums séparés. De temps à autre, les poissons du plus grand aquarium s'irritent d'un petit aquarium proche et bondissent, mitrailleuses à la nageoire, pour un bon petit holocauste du voisin. Les organisateurs des visites d'un aquarium à l'autre sont les bienfaiteurs de l'humanité qui s'appellent les grands romanciers. Merci Charles Bantig.